Dans la grande maison vide, retranchée sur sa dune avec, alentour, postées sur les hauteurs voisines, d'autres maisons aux volets clos et sans lumière, depuis mon lit la nuit, j'écoute la mer. Infatigablement, elle appelle. Ses ondulations argentées glissent devant elle sur le sable du rivage, s'avancent jusqu'à la digue, se coulent entre les dunes, épousent chaque courbe, chaque vallonnement, se répandent dans les allées qui conduisent aux maisons, passent sans s'arrêter les grilles des portails, recouvrent tout ce qu'elles touchent, les pivoines, les roses, les jardins de rocailles plantés de bégonias, les bordures de tagettes, les laitues qui éclosent, les fraises qui mûrissent, les poireaux et les choux alignés dans les potagers. Ces ondoiements enveloppent le monde sous leur mouvant suaire. L'eau entre dans ma chambre. Elle est douce, caressante. Sous ses flots, dans les fonds ténébreux et froids, sont enfouies des forêts enchantées où vivent des créatures étranges. Ma robe n'est pas froissée. Corinne Hooks. Cette jeune femme, fascinée par la mer du Nord, est au cœur du second roman de notre compatriote Corinne Hooks, récemment publié aux éditions Les Impressions Nouvelles. Son titre est « Ma robe n'est pas froissée ». C'est le récit bref et intense d'une jeunesse dévastée d'abord par un père, ensuite par une mère et enfin par un fiancé. Une très très belle écriture, un roman âpre et fort, mais pas désespéré ni dénué d'humour, en tout cas dans l'autodérision. La métaphore de l'eau, de la mer en particulier, la mer MER bien sûr, y est omniprésente avec son caractère profondément ambivalent. En effet, elle attire et fait peur à la fois, elle purifie et corrompt, elle donne la vie et dévore. Alors nous avons rencontré Corinne Hooks et pour cette rencontre, nous sommes partis du titre « Ma robe n'est pas froissée ». On ne choisit jamais un titre au hasard, bien sûr, et celui-ci en dit long sur le personnage central.
En effet, c'est un titre qui a une grande part, un grand rôle à jouer dans le roman. Il a peut-être, on peut peut-être le voir sous deux aspects différents. À la fois, cette narratrice, qui est une femme au parcours très difficile, qui se trouve dans un premier temps niée, rejetée par ses parents, et ensuite rencontre un homme qui ne fait que prolonger ce déni psychologique et aussi cette violence physique qui a déjà été mise en place en partie par le père. Cette femme cherche tellement, malgré tout, à plaire à ces tortionnaires-là. Elle cherche à convenir, à être plaisante. Elle ne demande que ça, elle ne demande qu'à être aimée. C'est une quête impossible, hein. Mais elle cherche à ce point à plaire et à convenir qu'elle est toujours dans la recherche d'être parfaite, d'être aimable. Et finalement, quand elle est frappée, quand elle est battue, quand elle est maltraitée, ce qui importe pour elle, c'est de rester parfaite, de rester intacte, c'est de s'en sortir avec une robe pas froissée pour descendre à table, rejoindre les parents qui l'appellent pour le souper. Donc ça, c'est un des aspects qu'on peut voir dans ce titre. Et il y en a peut-être un autre qui a un côté assez intéressant et peut-être porteur d'un certain espoir pour l'avenir éventuel de cette narratrice qui quand même porte là un vécu qui pourrait entraver son épanouissement futur. Il y a là quand même quelque chose. Comment survit-elle à cette horreur qu'elle subit? Peut-être par ce côté un peu, je ne crois pas qu'on puisse dire frondeur, mais elle est certaine de retrouver quand même quelque chose de son noyau dur en elle. Elle a une force qu'elle peut rejoindre et qui ne se froisse pas. Alors cette force-là, Peut-être que c'est auprès de la mère, parce que la mère du Nord est peut-être le personnage principal du roman, parce que dans les trois parties qui composent ce roman, c'est-à-dire une partie relative au père, une autre à la mère, une autre à ce premier amoureux, ces trois parties se situent à la mer du Nord et la narratrice, de façon récurrente, retourne voir la mer. C'est peut-être même la seule chose qu'elle choisit de faire dans son existence, c'est aller au bord de la mer. Et c'est là, dans cette contemplation silencieuse, dans ce bercement, dans cette présence de l'eau immense, que la narratrice retrouve peut-être quelque chose de sa nature profonde et de sa force intérieure.
La mer, effectivement, vous le dites, Corinne Hooks, est très présente. Mais dans toute la variété de sa présence, c'est-à-dire que à certains moments, dans certaines pages, la narratrice la ressent comme une espèce de monstre qui vient d'une certaine manière comme en écho aux autres bourreaux, son père, sa mère et plus tard le fiancé ou en tout cas le présumé fiancé. Et à d'autres moments, au contraire, la mère c'est l'élément qui apaise.
C'est vrai qu'elle va au bord de la mer et qu'elle la contemple dans tous ses états liquides. La mer, dans ce roman, a peut-être plusieurs fonctions différentes. En tout cas, c'est peut-être un double de la narratrice, déjà, d'une certaine façon, et c'est peut-être en cela qu'on voit la mer dans des états différents, étant donné que la narratrice se trouve face à la mer à des moments différents, dans des états d'esprit qui ne sont pas toujours les mêmes, et que donc la contemplation de la mer lui renvoie ce qu'elle éprouve à ce moment-là. Donc là, il y a une mise en écho face à la mer. La mer a aussi une fonction de métaphore de ce que vit la narratrice et de son histoire, dans la mesure où ce que vit la narratrice est quelque chose d'inéluctable. Elle est, depuis l'enfance, maltraitée, niée, méprisée par le père, elle n'est pas regardée par la mère, elle est déniée dans sa vérité de femme. La mère ne lui transmet pas le féminin. Et en fait, quand elle arrive à cet homme qu'elle rencontre, il ne fait jamais qu'un passage à l'acte de ce que les parents ont mis en place. Et l'histoire se répète toujours. La narratrice est un peu comme télécommandée dans cette situation dont il semblerait qu'elle ne puisse pas sortir. Et c'est vrai qu'il y a des moments où elle voit la mer et où elle la décrit. Elle dit à un moment donné que les vagues se construisent, se brisent et qu'elle répète toujours ce même geste sans jamais atteindre le fond, sans jamais rien savoir du fond de la mer, et que toujours cette chose se répète en surface, sans que quelque chose profondément ne change.
Ce qui est important par rapport à la narratrice, Corinne Hooks, c'est qu'il s'agit de la mer. Vous ne parlez pas d'une rivière ou d'un ruisseau, mais c'est la mer, et je crois qu'il y a dans cet élément liquide là des éléments qui jouent un rôle important dans la narration.
Elle n'est pas au bord d'une rivière, elle ne voit pas couler de l'eau devant elle, parce que de l'eau qui coule devant nous, que ce soit un torrent, une rivière, c'est de l'eau qui avance. Il y a quelque chose qui va vers une résolution. L'eau part d'une source, elle va vers la mer. Tandis que quand elle regarde la mer, il n'y a pas de résolution. Comme je le disais tout à l'heure, les vagues se construisent et se brisent et ne savent rien du fond de la mer, mais c'est toujours cette même masse d'eau qui est là devant elle. C'est une masse d'eau qui ne bouge pas. Il y a quelque chose dans la contemplation de la mer qui porte en soi ce côté inéluctable. Il y a là devant la narratrice une masse pesante, quelque chose dont on ne sort pas, quelque chose qui ne bouge pas en soi-même. Voilà, ça, quelque chose qui ne s'écoule pas. Il y a dans ce vis-à-vis-là un élément métaphorique du récit qui est important. Alors elle est là devant la mer, et il y a aussi dans cette contemplation le fait qu'elle est absorbée dans cette immensité. L'eau, dans les trois parties, c'est l'endroit d'où elle parle. C'est peut-être un miroir qui la renvoie à elle-même, mais je ne crois pas que ce soit vraiment tout à fait ça le plus important. Je pense que là, elle sent aussi qu'elle fait partie du grand tout. Il y a quelque chose de l'immensité dans la mer. Elle se sent aimée par ce grand tout. Il y a là une empathie. C'est la mer qui est le lieu le plus humain, finalement, de ce récit. C'est là qu'elle sent peut-être qu'elle a une place et qu'elle est aimée de la nature, du monde.
Même si à certains moments, on l'a vu, elle ressent la mer comme un monstre qui la submerge.
Mais la mer peut aussi être la métaphore de sa mère à elle. À un moment donné, après avoir vu sa mère dans la seigneurie, elle s'en va, elle va le long du rivage, et à ce moment-là, oui, la mer lui renvoie quelque chose qui n'est pas du tout conciliant, qui au contraire est une force menaçante qui pourrait l'absorber. Elle voit son côté glauque, son côté toujours vivant, malgré une apparence dégoûtante dans le port. Elle la voit comme quelque chose de vivant et donc de sournois aussi. Donc elle la voit sous une forme inquiétante. La mère n'est pas toujours son amie.
C'est vrai que la présence de l'eau, la présence sous des formes très diverses, fait penser évidemment à un ouvrage presque mythique de Gaston Bachelard, qui a étudié tous les éléments et notamment l'eau dans ce très bel ouvrage intitulé « L'eau et les rêves ».
Oui, et cela me fait penser à une phrase très belle qu'il a. Il dit « L'être voué à l'eau est un être en vertige ». Et cela me fait penser à cette héroïne, à cette narratrice qui va au bord de la mer et qui trouve finalement un écho de ce qu'elle est, un écho de ce qui l'entoure, qui est parfois rassurant, mais aussi qui est un écho de sa détresse. Elle est dans cette demande d'amour, c'est l'endroit ami, c'est l'endroit qui lui renvoie quelque chose d'elle-même, mais aussi quelque chose de son vécu terrible et du vertige d'être, du vide qui l'entoure aussi.
Dans un des passages du roman, Corinne Hooks, la mer, est-ce que ce n'est pas aussi celle qui dévore? Et dans ce sens-là, c'est un élément plutôt négatif.
Elle est aussi à certains endroits une métaphore de ce qu'est la mère de la narratrice, c'est-à-dire cette femme qui n'aime pas, qui ne laisse à sa fille aucun accès à la féminité et qui lui donne un peu le sentiment d'être avalée. Et donc, oui, la narratrice, après avoir quitté sa mère dans cette seigneurie le soir, se promenant le long de l'eau, voit la mer, l'eau dans le noir. Elle ressent la présence de la mer à ce moment-là, dans toute sa menace de bouche noire, susceptible de l'engloutir. De même qu'elle ressent, dans cette malveillance de sa propre mère à son égard, quelque chose là qui est à la fois de l'ordre du rejet et de l'engloutissement.
Quand ma mère s'est éveillée, j'étais debout près de la fenêtre. Je considérais la plage par marée basse, les cargos à l'horizon, la mer, retirée au loin, l'eau rentrée en elle-même, et les rides qu'elle avait creusées et où ruisselait le reflux des vagues. J'observais les travaux de terrassement au pied de la digue. Des camions déversaient du sable par benne entière. Une transfusion de sable pour ranimer la plage, là où l'eau sans relâche la vidait de sa substance. Car dans la griserie de son murmure, sous les tendresses sinueuses de ses innombrables langues, la mer continuellement aspire la plage et l'emporte. Durant les heures que je passe ici chaque semaine, je ne me lasse pas de regarder la mer. La mer me possède. Elle envahit mes rêves. La nuit, je suis une nageuse qui se glisse dans son eau, une plongeuse épiant son ventre. Au début, toujours, elle est magnifique, d'un bleu insoutenable. Mais aussitôt que je m'y enfonce, elle devient glauque, hostile. Son étreinte m'engloutit, son baiser me broie. Un monstre ruisselant des chaînes ses rafales se dresse devant moi, me submerge, m'écrase. La nageuse est anéantie, désagrégée. Ne reste d'elle que les flocons d'écume laissés par la vague qui se retire. Quelques lambeaux de mousse que la brise soulève et que ravit le vent. Ma robe n'est pas froissée, Corinne Hooks.
Pour moi-même, la mer est un élément très important. Et il est vrai que ce roman, dans sa construction première, a commencé probablement par, d'après ce dont je me souviens en tout cas, des débuts, c'était une mise en place de personnages au bord de la mer. Une femme qui était au bord de la mer, qui était dans cette situation-là, et qui allait parler à quelqu'un d'absent. Et c'est comme ça qu'est né, en premier lieu, le texte où la narratrice s'adresse à son père. Et puis j'ai fait d'autres textes que ceux qui sont là, mais assez vite quand même, ce qui a suivi s'est imposé et le roman a été construit sous la forme de cette trilogie, de ces trois actes et de cette démonstration de l'inéluctable, comme je le disais tout à l'heure. Mais ce qui a peut-être donné le socle au roman, ce qui lui a donné peut-être, et ce qui donne peut-être à la narratrice, la force de compter cela, de vivre cela, c'est cette présence maritime. Qui, je crois, effectivement, pour tous les Belges et tous les enfants que nous avons été, a été quelque chose de fondateur de notre être intime aussi. Quand on part sur le long cours, pour employer une image maritime, sur le long cours de l'écriture d'un texte, il faut même une énergie de départ qui permette de faire ce grand voyage. Et donc, je pense que là, ça a été ce qui a donné le point de départ.
Maintenant, si on pousse peut-être un peu plus loin l'analyse concernant la présence de l'eau dans le roman, il y a évidemment la mer qui est omniprésente et qui est à l'origine pratiquement de chacun des trois chapitres. Il y a aussi d'autres éléments, me semble-t-il, qui sont importants. Il y a les larmes.
Oui, les larmes sont très présentes à un moment donné du récit. Il est vrai que la mère de la narratrice est une femme très dure, dans ce monde qui est un monde sans affect, qui est un monde où il n'y a pas de parole adressée, sinon pour humilier, sinon pour mépriser. Il n'y a pas de gestes, sinon ceux des gifles, sinon ceux du rejet. Et donc les larmes sont pour la narratrice une sorte de secours. C'est là qu'elle peut s'abandonner peut-être à son être sensible, à son être liquide. La mère a très peur des larmes par contre. Elle a une peur de voir pleurer sa fille parce que peut-être que la mère n'a pas envie de voir sa fille accéder à ce monde liquide, de la même façon que la mère n'a pas envie de voir accéder sa fille au monde liquide des règles. Je crois qu'on pourrait y voir là, chez cette mère, une peur de voir sa fille dans la rivalité. À partir du moment où la fille va accéder à son féminin et passer de l'état d'enfant à l'état de jeune fille, la mère est encore bien plus négative et la rejette encore bien plus. Les passages sur les règles montrent une mère qui est dans le déni complet de sa fille et donc ne lui transmet rien du féminin, ce qui fait que la fille arrive, le jour où elle va rencontrer ce premier homme, elle arrive complètement dénuée d'informations même carrément. Elle est dans une très grande innocence par rapport à ce qui se passe, presque pas plausible. Mais ce qui peut s'expliquer, étant donné la manière dont la mère la traite.